Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Les chaînes qu'on abat, non, rassurez-vous, on ne va pas encore rendre hommage à nos chers disparus. Les chaînes qu'on abat, c'était le titre du livre d'hommage de Malraux à De Gaulle, un vers de Victor Hugo. Et c'est aussi une manière de parler de la forêt, de notre rapport avec ce lieu si important pour les chasseurs-cueilleurs que nous avons été, d'un lieu qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité, tout simplement parce que en Pologne, par exemple, en Pologne qui accueillera la prochaine conférence onusienne sur le climat, alors même que le pays est en ce moment visé par la justice européenne pour la déforestation. Ailleurs, plus loin, en Amazonie, on a également un problème lié à la déforestation et c'est la raison pour laquelle nous allons recevoir Peter Wohleben qui est dans ce studio. Bonjour Peter Wohleben. Vous avez été forestier en Allemagne pendant plus de 20 ans et vous dirigez aujourd'hui une forêt écologique. Votre livre « La vie secrète des arbres » publié aux Arènes, s'est vendu en Allemagne à des millions d'exemplaires et en France également. Il est encore aujourd'hui un best-seller. C'est un livre auquel j'ai pris beaucoup de plaisir en le lisant. Et on se pose tout d'abord une première question. Lorsque vous avouez dans cet ouvrage que vous étiez au départ aussi amoureux des livres que aussi amoureux des arbres que les bouchers le sont des animaux, comment vous est venu cet amour des arbres? Comment avez-vous décidé de vous pencher sur cette vie secrète que vous décrivez?
Ich wollte eigentlich schon als kleines Kind Naturschützer werden und nicht Förster. Und
dès mon enfance, je voulais devenir protecteur de la nature et pas du tout forestier.
Und ich dachte, dass Förster sowas wie Waldhüter ist.
Je pensais qu'un forestier était là pour protéger la forêt.
Als ich begonnen habe, habe ich, wie Sie schon sagten, gemerkt, dass Förster so etwas wie Baummetzger sind.
Et lorsque j'ai débuté, je me suis rendu compte qu'un forestier, c'était plutôt le boucher de la forêt.
Und habe aber trotzdem weitergemacht, mich für Bäume als Lebewesen zu interessieren und nicht als Rohstofflieferant.
Mais j'ai continué à m'intéresser aux arbres en tant qu'être vivant et non pas comme matière première.
Und dabei habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ein uralter Stumpf, der Baum war schon seit 400 bis 500 Jahren gefällt.
Et là, j'ai constaté que par exemple la souche d'un arbre abattu depuis 400 ou 500 ans,
dass dieser Stumpf immer noch am Leben war, ohne ein grünes Blatt, über Jahrhunderte. Und die Frage war, wie kann
il
das sein?
Il restait en vie malgré au cours des siècles, sans avoir pour autant une seule feuille verte.
Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Stumpf von den Nachbarbäumen über die Wurzeln mit Zuckerlösung.
Et je me suis rendu compte que cette souche était nourrie par les arbres avoisinants au moyen d'un apport de glucides.
Und das widerspricht der Theorie, dass jeder Baum gegen jeden kämpft. Das ist nicht die Evolution.
Contredit la théorie qui veut que chaque arbre lutte contre les autres.
Und das ist nicht die Art Evolution, die wir immer gelesen haben, nur der stärkste.
C'est pas du tout le mode d'évolution qu'on a toujours lu ou enseigné.
Alors, si l'on voulait résumer ce que vous expliquez dans La vie secrète des arbres, Peter Wohleben, qui est particulièrement étonnant, parce qu'en fait, vous considérez que les arbres forment une société, et donc, dans une société, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se parle et on s'entraide. Expliquez-nous pourquoi les arbres agissent de la sorte.
Die machen das genau. Weswegen wir das machen, die tauschen wichtige Informationen aus.
Ils font exactement comme nous, ils échangent des informations.
Zum Beispiel über Insektenattacken.
Par exemple sur les attaques d'insectes.
Wenn ein Baum befallen wird, dann tut dem das weh.
Lorsqu'un arbre est attaqué, ça lui fait
und
mal.
Er warnt alle anderen vor, damit die vorsorglich.
Il prévient les autres pour qu'ils puissent se prévenir de cette attaque.
Und das bedeutet, dass die Gemeinschaft als Ganzes erhalten bleibt.
Das signifie, le but étant bien sûr que l'ensemble de la communauté soit préservé.
Denn nur als starke Sozialgemeinschaft kann ein Wald lange überleben.
Car une forêt ne peut survivre que si elle forme une communauté soudée.
Alors, il parle par le biais donc de réseaux micellaires, c'est-à-dire de ces petits champignons, de ces petits filaments blancs qu'on trouve dans la terre. C'est ça, Peter Wohleben?
Ja, das ist dieses sogenannte Wood Wide Web. So hat das die.
C'est ce qu'on appelle le Wood Wide Web.
Nature hat das so genannt in den 90er Jahren.
La revue Nature a appelé ça comme ça dès les années 90.
Und das ist tatsächlich wie unser Internet.
Et c'est exactement, ça correspond exactement à ce qu'est pour nous l'Internet.
Die tauschen natürlich keine Videos aus.
Évidemment, ils n'échangent pas de vidéos.
Etwas wie E-Mails, das heißt
mais en tout cas quelque chose qui ressemble à des E-Mails, des messages
oder
sur
über,
ces fameuses attaques de prédateurs.
Rehe oder Hirsche, die an den Blättern fressen.
Lorsque des cerfs viennent brouter les feuilles.
Alors, il y a beaucoup d'exemples comme cela dans votre livre. Et du coup, lorsqu'on les découvre, Peter Houlebon, on se dit que bon, bah, ça, c'est de l'anthropomorphisme, parce que vous expliquez que les arbres souffrent, que les arbres s'entraident les uns les autres. Alors, on veut bien qu'il y ait... une vie des arbres, une vie de la forêt, mais on se dit quand même, est-ce que Peter Houlebon n'est pas en train de confondre les arbres avec la société humaine, leur prêter des sentiments et des comportements humains?
Nein, das glaube ich nicht.
Je ne crois pas.
Ich kann es natürlich immer nur mit unserem Leben vergleichen.
Bien sûr, je ne peux que comparer à notre
bäumisch kann. Ich kann keine Baumsprache.
Je ne parle pas la langue des arbres. Et on ne comprendrait pas.
Aber die Mechanismen, die Strukturen, die sind bei allen Lebewesen gleich, die sozial leben.
Sont comparables au nôtre.
Das heißt, es gibt eine Sprache, es gibt Gefühle.
Il y a une langue, il y a des sentiments.
Wir haben Bäume bisher immer nur als Rohstofflieferanten.
Et jusqu'ici, on a considéré les arbres uniquement comme une matière première.
Als eine Art Möbelstücke gesehen.
Ou comme une sorte de meuble.
Alors, si vous deviez convaincre quelqu'un qui n'en est absolument pas persuadé qu'un arbre peut souffrir, par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez?
Ja, Bäume können leiden.
Oui, les arbres peuvent souffrir.
Wenn ein Baum verletzt wird, dann gibt es im Gewebe elektrische Strömungen.
Son tissu reçoit des impulsions électriques.
Genau wie bei uns auch. Und es gibt eine Abwehrreaktion.
Donc il y a une réaction
de défense. Und ob die sich so anfühlt wie bei Ihnen und bei mir, das weiß ich nicht.
Est-ce qu'il ressent la même chose que vous et moi? Ça, je ne peux pas dire.
Aber ich weiß auch nicht, wie Sie Schmerz empfinden.
Mais je ne sais pas comment vous ressentez la douleur, par exemple.
Bon, même chose. Vous dites que les arbres s'entraident. Donnez-nous un exemple de cette entraide.
Ja, zum Beispiel, wenn ein Baum schwach ist.
Par exemple, lorsqu'un arbre est affaibli ou blessé.
Auch dann bekommt über die Wurzeln Zuckerlösung.
Il reçoit aussi une solution de glucose à part son système de racines.
Und das führt dazu, dass alle Bäume die gleiche Rate an Photosynthese haben.
Ce qui conduit au fait que les arbres ont tous le même degré de photosynthèse.
Egal, ob sie stark oder schwach sind.
Peu importe qu'ils soient forts ou faibles.
Und man weiß, dass nur Bäume in solchen Wäldern uralt werden können.
Et on sait que c'est la seule façon pour des arbres d'atteindre un âge avancé dans des forêts.
Alors, il y a donc cette vie des arbres, mais cette vie des arbres, elle doit également se comprendre dans l'écosystème de la forêt. Est-ce que finalement, ça n'est pas le rôle des arbres de vivre avec des insectes, de vivre avec des animaux qui peuvent éventuellement se nourrir, donc en les blessant, comme vous dites, même si à chaque fois qu'on prononce cette phrase, on est un peu étonné.
Ja, aber wir verstehen momentan Natur als eine große Maschine.
Mais de nos jours, nous comprenons la nature comme une sorte de grande machine.
Wo jedes Zahnrädchen, ob es Bäume sind oder Insekten, seinen festen Platz hat.
Chaque petit rouage, que ce soit les arbres ou les insectes, sont reliés entre eux.
Aber so ist das nicht.
Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Also wir haben Bäume zum Beispiel bisher immer als Diener des Menschen gesehen.
Nous avons toujours considéré les arbres comme étant au service de l'humanité.
Die für uns Sauerstoff produzieren.
Qui produisent pour nous
und das machen
de l'oxygène.
Bäume natürlich nicht.
C'est pas ça qu'ils font, les arbres.
Bäume gibt es seit 300 Millionen Jahren.
Les arbres existent depuis 300 millions d'années.
Menschen seit 300.000 Jahren.
Et les hommes, les humains depuis 300 000 ans.
Und Förster seit 300 Jahren.
Et les forestiers depuis 300 ans.
Also haben die Bäume das bisher prima alleine gemacht.
Donc les arbres ont commencé bien avant nous.
Ils étaient là avant vous. Mais alors, Peter Houlebon, maintenant que vous êtes là et que vous réfléchissez aux arbres en tant que forestier, et puis vous avez écrit sur eux, qu'est-ce que vous avez compris sur leur utilité, à quoi servent-ils? Alors, à quoi servent-ils aujourd'hui, mais même dans l'évolution, à quoi peuvent servir ces arbres majestueux, ces petits arbres, ces feuilles? À quoi sert l'écosystème de la forêt?
Das ist dieselbe Frage, als wenn ich fragen würde, wozu ist eine Zecke da?
Oui, c'est la même question.
Une zecke ou un mosquito.
Ah oui, c'est la même question. Je pourrais poser à quoi sert un moustique, à quoi sert une tique, à quoi sert.
Wir haben uns auch nie gefragt, wozu ist überhaupt ein Elefant da.
Oui, on ne s'est jamais demandé pourquoi un éléphant existait.
Also ich finde, wir sollten jedes Wesen für sich nehmen, wie es ist. Und
je crois qu'on devrait considérer chaque être vivant pour ce qu'il est.
Dass Menschen wieder staunen können über Bäume, genauso wie sie über einen Elefant staunen.
Je trouverais très utile que les hommes continuent à s'étonner au sujet des arbres, comme ils le font pour certains animaux.
Alors on s'étonne par exemple que les feuilles tombent.
Also man staunt darüber, dass Blätter fallen.
Ja, genau. Das ist, wenn Blätter fallen, genau dann gehen Bäume zur Toilette.
C'est, les feuilles qui tombent, c'est comme si les arbres allaient aux toilettes.
Dann pumpen sie ihr großes Geschäft in die Blätter. Ob die deswegen braun werden, weiß ich nicht.
Ils font, pour ainsi dire, leur grosse commission dans les feuilles et ils s'en débarrassent.
Ja, ob die deswegen braun werden, weiß ich nicht.
Est-ce que c'est pour ça qu'elles deviennent couleur brune? Je ne sais pas. Mais...
On s'étonne également qu'il y ait donc un lien entre les arbres, qu'il y ait également une diversité des arbres dans la forêt, puisque vous expliquez, Peter Wolleben, qu'il y a un agencement, que cet agencement ne doit rien au hasard dans les forêts, entre les petits arbres, les grands arbres, les jeunes arbres et les plus âgés.
Ja, alte Mutterbäume, das ist ein Fachausdruck, erziehen
les arbres mères, c'est une expression consacrée.
Die erziehen ihren oui. Nachwuchs.
Les arbres mères élèvent leur descendants, si on peut dire, comme des parents élèvent leurs enfants.
Und zwar durch einen ganz starken Schatten, wo nur 3% des Lichts auf dem Boden kommen.
Et cela grâce à une ombre très épaisse où seulement 3% de la lumière peut pénétrer.
Und dadurch müssen die kleinen Bäume sehr gerade wachsen.
Et c'est pour cela que les jeunes arbres doivent pousser très droit.
Und das hat den Vorteil, dass gerade Bäume in einem Sturm nicht so leicht brechen.
L'avantage, c'est que des arbres bien droits ne se brisent pas trop facilement en cas de tempête.
Et vous dites, Peter Wolleben, alors toujours dans cette perspective d'aucuns qualifieraient d'anthropomorphique, vous dites, Peter Wolleben, que les vieux arbres, ils donnent à manger aux jeunes, qu'ils les aident à vivre.
Aber das ist tatsächlich ganz konservative, seriöse Forschung von verschiedenen Universitäten.
Des recherches très sérieuses de différentes universités l'ont montré.
Aber bisher wurde das halt sehr wissenschaftlich, sehr trocken, mit sehr viel Fachausdrücken.
Mais jusqu'à présent, tout cela a été exprimé de façon très sèche, très scientifique.
Und das ist der Grund, warum es bisher keiner gewusst oder gelesen hat.
C'est pour ça que très peu de gens en ont pris connaissance jusqu'à aujourd'hui.
Alors ça pose toutes sortes de questions, la lecture de ce livre, La vie secrète des arbres, Peter Wolleben. Par exemple, on se demande du coup comment aider la forêt. Alors peut-être que la meilleure façon d'aider la forêt, c'est de laisser la forêt s'occuper de la forêt, donc de ne plus être garde forestier, de ne plus être homme dans la forêt.
Seine eigenen Geschäfte
ja.
selbst
erreichen zu lassen. Das ist genau das, was ich sage. Wir sitzen hier zum Beispiel an einem Holztisch oder meine Bücher sind auch aus Holz.
Par exemple, nous sommes assis devant une table en bois où mes livres sont imprimés à partir de papier.
Und wenn pas de bois. Ich finde, als Mensch haben wir das Recht, Holz zu nutzen.
Je pense qu'en tant qu'être humain, nous avons le droit d'utiliser le bois.
Wenn wir sagen, wir müssen den Wald pflegen,
mais lorsque nous disons que nous devons soigner la forêt, prendre soin, c'est ce que disent beaucoup de forestiers.
Das müssen wir nicht. Die Wälder
Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Les forêts peuvent se soigner toutes seules, s'entretenir elles-mêmes.
Wenn ein Förster sagt, ich muss den Wald pflegen,
lorsqu'un forestier dit, je dois entretenir la forêt,
dann ist das so ähnlich, als wenn ein Metzger sagt, ich pflege Tiere.
C'est la même chose qu'un boucher qui dit, je soigne les animaux.
Mais alors, comment s'y prennent-elles pour s'occuper d'elles-mêmes? Alors, vous avez parlé des feuilles qui tombent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu dans la forêt pour que la forêt s'occupe d'elle-même, Peter Wolleben?
So ganz genau haben wir das alles noch nicht verstanden, aber wir können
das. Pas encore tout compris.
Wir sehen das sehr schön am Amazonas. Da gibt es auch
keine. On peut le voir très bien en Amazon où il n'y a pas de forestiers, par exemple.
Und wir möchten auch nicht, dass dort Förster arbeiten.
Et nous ne voudrions pas qu'il y ait là-bas des forestiers.
Und unsere Wälder haben das auch sehr schön gekonnt.
Nos forêts se sont très bien débrouillées avec
Aber
tout ça.
Wir haben leider weder in Deutschland noch in Frankreich
et malheureusement, que ce soit en Allemagne ou en France,
einen Quadratmeter Urwald übrig.
Nous n'avons plus un seul mètre carré de forêt primaire.
Das ist das, was ich gerne hätte, dass wir wenigstens auf einer kleinen Fläche.
J'aimerais bien qu'on ait encore au moins une petite surface de forêt primaire.
Une forêt primaire, c'est quoi? C'est une forêt qui est là depuis l'origine du monde, Peter Wolleben?
Ja, das ist ein Wald, in dem der Mensch noch nie aktiv etwas verändert hat.
Disons que c'est une forêt dans laquelle l'homme n'a jamais pris de part active.
Und hier, wo wir jetzt sitzen, hat es auch Buchenurwälder gegeben.
Et ici, à l'endroit même où nous sommes assis, il y a eu des forêts primaires de hêtres.
Ja, und die letzten Buchenurwälder, die intakten, gibt es im Nord-Iran.
Et les dernières forêts primaires de hêtres, on les trouve au nord de l'Iran.
Also nicht mehr in Europa.
Mais plus du tout en Europe.
Von daher haben wir eine Verantwortung, wenn wir immer nach Brasilien schauen, nach Indonesien schauen.
Nous avons donc une responsabilité lorsqu'on regarde le Brésil ou...
Ja. Wir sollten also, wir sollten hier bei uns Wald schützen und nicht in Brasilien oder Indonesien.
Commencer par protéger les forêts primaires chez nous avant de penser au Brésil ou à l'Indonésie.
Mais alors, si je veux voir une forêt primaire en Europe, est-ce que véritablement la tâche est impossible aujourd'hui?
Doch, es gibt noch Urwälder, aber die sind dann in Skandinavien, in Nordschweden.
Il reste quelques forêts primaires, mais elles sont en Scandinavie, au nord de la Suède.
Fichtenurwälder oder Birkenurwälder.
Des forêts primaires de sapins ou de...
Ja, und die haben mit unseren Urwäldern hier, zum Beispiel, die ursprünglich in Paris waren, nichts zu tun.
Mais elles n'ont plus rien à voir avec nos forêts primaires, comme celles qui pouvaient être à Paris, par exemple.
Pourquoi sont-elles spécifiques? Qu'est-ce qu'elles ont de particulièrement précieux, ces forêts primaires, Peter Rodeben?
Was ist der besondere Wert?
Das ist der Wert an sich. Was ist der besondere Wert eines Orang-Utans?
Oui, quelle est la valeur intrinsèque d'un Orang-Utan, par exemple?
Was ist der besondere Wert eines Nashorns?
Ou d'un Asik, d'un Rhinoceros.
Der Punkt ist, die haben einen moralischen Wert an sich und,
ils ont une valeur morale en eux-mêmes.
Und wir haben Freude daran.
Et nous sommes heureux qu'ils soient là.
Und das ist das, was die meisten Menschen nicht verstehen.
Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas.
Wenn wir Naturschutz betreiben, betreiben wir eigentlich Menschenschutz.
Lorsqu'on fait la protection de la nature, en fait, on protège l'humanité.
Il y a bien sûr une valeur intrinsèque, elles ont une dignité, personne ne leur ôte d'ailleurs ces forêts primaires, mais au-delà de ça, est-ce qu'elles ont une fonction que les forêts qui sont des forêts secondaires ne remplissent pas?
Ja, diese Frage nach Funktion ist kulturhistorisch.
Cette question de la fonction est un problème culturel.
Die stellen wir erst seit dem Zeitalter der Aufklärung.
On ne la pose que depuis l'époque des Lumières.
Und die kommt aus der Sichtweise, dass wir Natur als Maschine sehen, als Diener, der Menschen.
Elle vient du fait qu'on considère la nature comme étant au service de l'humanité.
Peter Rodeben, La vie secrète des arbres, c'est votre livre publié aux éditions des Arènes. Vous êtes traduit par Bernard Mangiante. On va vous retrouver aux environs de 8h20. On va parler un peu de politique avec vous, de politique au sens où les arbres pourraient faire de la politique, ou malheureusement on fait de la politique au sujet des arbres. On va parler de cette forêt primaire en Pologne qui est aujourd'hui menacée, de la question de la forêt amazonienne, des feux de forêt également qui malheureusement endeuillent les étés en France et surviennent un peu partout en Europe. Mais en attendant, il est 8h sur France Culture.